Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
Quand je serai grand, je serai astronaute.
Moi, quand je serai grand, je serai actrice.
Bienvenue sur Les Enfants du Bruit et de l'Odeur. Nous sommes deux amis, Ulrich et moi, c'est Prisca. Un lundi sur deux, nous abordons avec nos invités les problématiques liées au racisme et aux discriminations que parents, enfants, adolescents et jeunes adultes vivent de la maternelle au banc des grandes écoles. Cet épisode a été enregistré le 25 mai 2021. Christina est née en Éthiopie, en 1977. De parents italo-éthiopiens, elle est arrivée en Italie très jeune, à la suite du conflit entre la Somalie et l'Éthiopie. Elle a effectué une grande partie de ses études en Italie, jusqu'à son départ pour la France à l'âge de 25 ans. Détentrice d'un master en recherche cinématographique, elle est aujourd'hui femme de ménage dans un palace parisien. Christina a accepté de partager au micro des Enfants du Bruit et de l'Odeur son parcours scolaire en Italie, afin que nous puissions avoir un autre regard sur l'expérience d'une personne racisée dans un pays européen. Ici, elle parle de parentalité, de couple mixte, du regard blanc, de fétichisation et de son isolement en tant que femme noire dans un univers majoritairement blanc. Alors prenez place et bonne écoute.
Bonjour Christina, comment vas-tu ?
Bonjour, ça va bien, merci.
Bon bah écoute, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation pour le podcast Les Enfants du Bruit et de l'Odeur. Je suis ravie de te recevoir aujourd'hui. Est-ce que tu pourrais te présenter s'il te plaît à nos auditorices ?
Oui, je m'appelle Christina, je suis italienne métisse éthiopienne. Mm-hmm. Voilà, je vis en France depuis à peu près 17 ans, si je calcule bien. J'ai vécu donc toute ma vie en Italie. Je suis née en Afrique, donc en Éthiopie, en 77. Là, aujourd'hui, j'ai 43 ans. Mm-hmm. Lorsque je suis née, il y avait la guerre civile. Donc, on est parti tout de suite vers l'Italie parce que, mes parents, ils étaient fils d'Italiens. Donc, ils étaient métis, italo-éthiopiens aussi. Donc, on a rapatrié. Et, du coup, j'ai vécu toute mon enfance en Italie jusqu'à à peu près mes 25 ans où je suis partie pour la France parce que je voulais faire un master en recherche cinématographique à la Sorbonne. Mm-hmm. J'ai fini mon master. Et puis, dans mes galères, je me suis retrouvée à travailler dans l'hôtellerie. Aujourd'hui, je suis femme de chambre dans un palace. Mmh. Et je suis en reconversion professionnelle parce que mon deuxième diplôme, dont j'ai pas parlé, c'est un diplôme... En fait, j'ai fait Beaux-Arts à Milan. Mmh. Donc, je suis diplômée des Beaux-Arts. Et du coup, pour retourner au dessin, j'ai fait une formation de médiation artistique.
D'accord.
Et je m'intéresse à l'autisme aussi, parallèlement au profil atypique. Donc, j'aimerais travailler en particulier avec un public autistique une fois, mm-hmm, que j'aurai mon cabinet. D'accord. Donc voilà, ça c'est mon projet professionnel pour le futur. Et je suis maman, j'ai un enfant qui va faire ses 8 ans cet été, mm-hmm, qui s'appelle Andrea.
D'accord. C'est beaucoup de choses.
Ah, j'ai oublié un truc.
Ah, vas-y.
J'ai aussi un petit blog de loisirs créatifs qui s'appelle, mm-hmm, Grandir Parents. Oui, et c'est comme ça qu'on s'est connus.
Exactement. C'est voilà. Comme ça qu'on s'est connus. Bah écoute, merci beaucoup. C'est riche, c'est complet. Et ça te ressemble, en fait, hein, c'est ça.
Ouais.
Est-ce que tu peux me raconter un peu, c'était comment ton enfance? Comment était la petite Christina?
Alors, la petite Christina était un enfant un peu atypique. Mmh. J'étais très solitaire. Et il faut dire aussi que ma maman étant décédée quand j'étais bébé, mmh, quand on est arrivé en Italie, en fait, elle est tombée malade, elle est décédée aussitôt. Mmh. Du coup, notre papa nous a élevés seuls. Et du coup, voilà, j'étais un enfant très atypique, solitaire, etc. Et à côté de ça, il y avait la situation autour. C'est-à-dire que l'Italie était un pays qui venait à peine de sortir de pauvreté, l'après-guerre, etc. Donc, qui commençait un petit peu à économiquement s'agrandir. Et du coup, il n'y avait pas d'immigration en Italie à l'époque.
C'était à quelle époque, justement?
Donc,
quelle année?
Bah, c'était le début des années 80. Hein. Je suis née en 77, donc quand j'étais petite, on va dire, c'était la croissance économique. Il n'y avait pas d'immigration, ce qui fait qu'à l'école, il n'y avait pas de Noirs. Et du coup, on était un peu vus comme des ovnis, comme ça. Du coup, déjà, les gens me regardaient bizarrement. En plus, moi, j'étais aussi atypique. J'étais un enfant très curieux, qui parlait beaucoup, qui avait beaucoup de fantaisie, etc., et qui avait du mal à être avec, à jouer avec les autres enfants déjà de base. Et en plus de ça, on me regardait bizarrement. Souvent, on pouvait pointer ma couleur de peau. Et à l'époque, moi, je savais pas trop me défendre, Et j'ai plein d'anecdotes comme ça, de vieilles dames, pendant que j'étais dans la poussette, qui me prenaient les joues et qui disaient « Oh, quelle belle nègre !» en dialecte. Enfin, c'était normal, en fait. Je crois que toute petite, le mot « nègre », pour moi, n'était pas un mot choquant.
On t'appelait comme ça.
Quand j'étais toute petite.
Et du coup, j'ai une petite question. Ton père, face à ça, parce que quand on était dans la poussette et qu'il entendait ça, il en disait quoi?
Il en dit... Bah, mon père, je pense qu'il faisait... En fait, mon père, il faisait pas de vagues. Hein? Il était très fier de ce qu'il était, mais il faisait pas de vagues. Et il était surtout très fier d'être italien. Et il arrêtait pas de me répéter, de dire que je ne suis pas africaine, je suis italienne. Parce que j'ai les papiers, parce que mon grand-père était italien et tout.
Parce que ton père est métisse.
Ouais. Sauf que bon, très longtemps après, j'ai réalisé des choses par rapport à ça qui sont assez fortes. Ma grand-mère, elle avait 16 ans quand elle est tombée enceinte.
Et lui, il était italien, c'est ça?
Ouais, c'était un soldat qui était un ami du patron de ma grand-mère qui, elle faisait des ménages chez un Italien qui était pas méchant, lui. Hein, mais...
Et ta grand-mère était noire?
Et ma grand-mère était, oui, éthiopienne, tout à fait. Pure souche, comme on dit. Et en fait, cette histoire est pas claire, je pense, pour mon père. Enfin, lui, il a dû se dire que ma grand-mère est tombée amoureuse, etc. Mais en regardant un vieux documentaire, c'était passé sur Facebook, je crois. C'était des images d'archives RAI. Et il y a un mec qui s'appelle Indro Montanelli, c'est un écrivain. Et lui, il a vécu en Afrique, et en Afrique, il s'est marié avec une Éthiopienne. Je sais même pas s'il était marié, mais en tout cas, il a fait des enfants avec un enfant. Parce que l'Éthiopienne, elle devait avoir 13 ou 14 ans, peut-être 16. Et dans cette archive, il y a une femme noire qui se lève dans le public. Ça devait être fin années 70, hein. Et elle dit, est-ce que vous vous rendez compte que c'est de la pédophilie? Est-ce que vous vous rendez compte que c'est du viol? Enfin, mais c'était d'une puissance, cette scène incroyable. Elle était choquée. Et les gens autour, ils étaient easy, quoi. Tout va bien. Et lui, il disait, mais de quoi vous parlez? C'est pas pareil, c'est pas comme nous.
Oui. En Éthiopie, c'est pas la même chose.
Et en fait, il y a un truc qui a fait tilt dans ma tête. Je me suis dit, mon grand-père était un pédophile fasciste. Et en fait, il parlait de quelque chose, parce qu'en fait, culturellement, la femme, il fallait qu'elle soigne la maison, en gros, parce que lui, c'était un invité. Donc, il fallait soigner la maison et dire oui à tous ses besoins. Donc, s'il voulait coucher avec elle, c'était normal de le faire, tu vois. Et ma grand-mère avait 16 ans quand elle est tombée enceinte. Et en fait, j'ai réalisé beaucoup de choses. C'est comme si c'était un cadeau du ciel, ce documentaire. Enfin, c'était une image d'archive qui est passée sur Facebook. C'était 3 minutes, comme ça. Mais en fait, j'ai commencé à vraiment m'interroger sur mes origines en regardant ça et sur l'histoire de mon pays aussi.
Et je reviens un petit peu, quand je te disais ton père il réagissait pas face au racisme des autres, tu me disais que non en fait, hein, c'est pas...
Ben, il faisait pas trop de vagues, mais quand même, je pense que là, quand ça commençait à être problématique, il avait quand même une façon de réagir assez ferme. C'est-à-dire que, ok, je fais pas de vagues, mais je laisse pas non plus passer tout quoi. Hein? Donc il pouvait être aussi très protecteur en cas de problème, bien entendu. Comme ça a été le cas pour ma sœur, lorsqu'il y avait eu elle avait eu un souci à l'école avec un petit garçon qu'il avait appelé nègre, et elle a bondi sur lui, elle a aplati au sol, elle l'a tapé. Ma sœur, qui était une petite fille toute sage à l'école, la maîtresse, elle a convoqué mon père, pas de vague, etc. Et pourtant, avec ma sœur, il lui a dit « Est-ce que tu lui as fait mal ?» Ma sœur a répondu « Oui, très bien ma fille, je suis fière de toi.
» Mais parce que le garçon, le petit garçon l'avait insulté, ouais. Et du coup ta sœur t'était
défendue. Donc oui, on fait pas de vague, mais lorsqu'il faut se défendre, il faut le faire. Donc ça, et ça, moi j'ai pas eu la chance en fait de m'en rendre compte avec mon père, parce que lui, mon père, ce qu'il voulait, c'est qu'on réagisse en se défendant. Nous-mêmes. Il ne voulait pas le faire pour nous. Et ça, moi, j'avais pas compris ça comme ça, quoi. Quand j'étais enfant, j'ai plutôt compris ça. Je me suis dit, OK, je fais pas de vagues. Mais par contre, comment moi, je vais me défendre? J'étais pas trop armée.
D'accord.
Et ça, je pense que c'est aussi parce que les deux premières années de ma vie, j'ai pas été avec eux. J'étais trop petite, j'avais 4 mois. Et mon père, ce que j'ai pas dit, c'est qu'il est handicapé. Il a un seul bras. Il a perdu un bras quand il était enfant. Et du coup, une famille d'amis blancs, ils sont pas noirs, eux, s'est occupée de moi pendant 2 ans, le temps que mon père puisse trouver un appartement, un travail, etc.
C'était juste après la mort de ta mère, ça.
Juste après la mort de ma mère. Donc, j'ai vécu 2 années à Gênes. Et du coup, j'étais un peu hors... De mon cercle familial, et du coup je pense que j'avais une connaissance de ma famille différente. Il y avait des choses que j'ignorais. Ils ont traversé des difficultés ensemble, moi j'étais protégée quelque part, j'étais dans un cocon.
Quand tu dis ils ont traversé des difficultés ensemble, tu parles de ta sœur et ton père, c'est ça?
Ma sœur, mon père et mes frères, oui. Parce que s'installer, chercher un... Mon père, il a dû faire les choses très très vite. Quand il vivait en Éthiopie, il avait une vie aisée. Il avait du personnel de maison qui faisait le ménage, il gagnait bien sa vie. Arrivé en Italie, ma mère décède, en 2 semaines, il a trouvé un travail, un appartement. Il a installé tout le monde et tout. Donc... avec le décès de sa femme qui était soudain, donc il a fait carrément des miracles. Il a été incroyable. Mon père, c'est une montagne. Mais moi, j'étais pas là. J'étais comme dans un cocon, dans une famille.
Une famille d'accueil. Hein.
Une famille, ouais. C'était des amis de famille en fait. Hein, c'était informel. Voilà.
Tu me disais tout à l'heure que le racisme qui était en Italie était vraiment plus frontal que le racisme qu'il y avait en France, et en même temps que le racisme en France était plutôt permissieux et hypocrite un peu, c'est ce que tu disais.
Oui, clairement. Et d'ailleurs, j'ai échangé avec plein de personnes qui ont vécu la même chose que moi, qui m'ont dit que oui, effectivement, c'est dit parce que j'ai des collègues qui ont vécu en Italie aussi. J'ai eu des collègues. Et en Italie, en fait, une personne raciste, tu la vois. Elle te le dit en face, elle t'appelle nègre. Ça peut arriver. Lorsque tu tisses des liens, la personne devient... d'égal à égal avec toi. Elle oublie que ta couleur est noire, en fait.
Comme pour la voisine, par exemple?
Comme pour la voisine, qui au départ pouvait me dire nègre, et qui finalement, elle a été l'amante de mon père pendant 10 ans.
Donc ta voisine te traitait de nègre?
Elle a pu le dire, ouais. Disons qu'en dialecte, des fois, oui, il y avait des mots un peu bizarres. Mais finalement, elle était veuve, donc elle est tombée amoureuse de mon père. En plus, mon père, voilà, pendant 10 ans, ils se sont vus en cachette parce que mon père assumait pas, en fait. Et ça a été comme une maman de substitution. Elle s'est occupée de moi, elle a pris soin de moi, j'allais manger chez elle et tout. Et on a encore un rapport, c'est quelqu'un de la famille pour moi. Donc, tu vois vraiment, les barrières, elles sont complètement abattues. Et j'ai eu des vrais amis en Italie quand j'étais enfant, même si j'ai vécu énormément d'épisodes de racisme.
Et c'était quoi ces épisodes de racisme? Est-ce que c'était par la parole? Est-ce que c'était des mots? Est-ce que c'était une discrimination?
C'était... Alors, bon...
À l'école, par exemple.
Il pouvait y avoir des épisodes de racisme dans lesquels on m'appelait la nègre. C'est arrivé plein de fois, même au lycée. Ou alors, ben, j'ai eu un enfant, une fois, il m'a craché dans le visage, hein. Il m'a insulté. J'avais défendu une copine parce que il était en train de lui mettre de la mousse à raser, c'était carnaval. Mm-hmm. J'ai défendu. Et m'a dit, lâche-moi la nègre, il m'a craché au visage. Mm. Et là, ça m'avait traumatisée. Et donc ça pouvait arriver. Ou alors le petit ami, genre j'étais amoureuse d'un petit garçon, un blond. Alors j'étais au collège, quoi. Mm-hmm. Oui. Et donc ce petit garçon, il était blond, il faisait du skate. Enfin, c'était, il était super joli et tout. Il était l'image de la coolitude. Mm-hmm. et voilà, donc moi j'étais en mode groupie. J'envoie ma copine, bon, blanche. Elle va le voir, elle lui dit, voilà, Christina, elle est amoureuse de toi et tout. Il dit, mais j'aime pas les nègres. Mm. Et ma copine, elle a eu l'indélicatesse de me le dire cash. Mm. Et je me rappelle que j'ai pleuré genre pendant 3 jours.
Mais est-ce que tu crois que ça a joué en quelque chose dans ton parcours scolaire, ce racisme?
Oui, oui, parce que ça m'a... Je me suis sentie seule, parce que j'avais pas vraiment de camarades noirs à côté de moi. Hein. Mm. Les noirs étaient très rares. J'avais déjà en Italie, on était 3 familles dans tout le quartier, donc j'avais la chance d'avoir des voisins qui venaient de mon pays, donc qui étaient éthiopiens. C'était une chance incroyable, mais eux, ils géraient différemment. Ils étaient très vieux. Enfin, c'est-à-dire que les enfants, ils se défendaient à l'école. Mmh. Ils tapaient les autres et tout. Moi, j'étais pas comme ça du tout. Du coup, j'étais...
Eux ne se laissaient pas faire, quoi.
Laissaient pas faire. Donc, moi, je me faisais moquer. On se moquait de moi. Et eux, ils se moquaient de moi parce que je me défendais pas. Mmh. Du coup, c'était compliqué. Hein. Donc, voilà. Mais bon, ça m'a pas empêché d'avoir des amis, des vrais amis. Et de faire ma scolarité, d'avoir des petites amies aussi qui n'étaient pas racistes et tout. En Italie, en France, pas pareil.
Pourquoi en France, pas pareil?
En France, pas pareil, parce que quand je suis arrivée, à mon cursus universitaire, donc j'étais à Paris 3, j'arrive, à cinéma, fac de cinéma, j'ai vu un...
Pour un master, hein, tu es arrivée pour un master.
Pour un master. Mais j'ai vu un arabe et pas de noir. Dans mon cursus, à l'époque, quand j'étais là. Les profs, ils étaient tous blancs, de toute façon. Je voyais des groupes. Parce qu'à Paris 3, il y avait des Noirs. Hein. Il y avait aussi des Arabes. Il y avait des gens racisés, des Asiatiques. Mais pas dans mon cursus de cinéma. Dans d'autres. Sciences Po, je sais pas. Enfin, des choses plus pratiques, on va dire. je voyais vraiment, c'est par groupe. T'avais les Noirs avec les Noirs. Et les Arabes aussi. Hein. T'avais les Italiens avec les Italiens, les Américains avec les Américains, les Asiatiques qui venaient d'Asie avec les Asiatiques qui venaient d'Asie. Et moi, j'étais un peu en mode, je vais où là? Parce que les Italiens, ils me prenaient pour une Française parce que j'avais pas d'accent quand je parlais en français. Les Français, j'étais noire, donc je pouvais pas être italienne. En plus, j'avais pas d'accent.
Tu correspondais pas à l'italienne en fait de base, pas au stéréotype de l'italienne.
Et
on va
moi,
dire.
Je pense que ça venait de moi aussi parce que je m'identifiais pas forcément avec les noirs qui pouvaient être là. Pourquoi? Parce que déjà ils étaient pas dans mon cursus, donc j'avais pas le réflexe d'aller chercher des noirs qui n'étaient pas dans mon cursus. Ça avait pas de sens, quoi. Donc forcément, j'étais un peu seule. J'aurais fait Sciences Po, ça aurait été pas pareil. J'aurais eu mon groupe sans ambiguïté, quoi. Du coup, en général, si j'étais intégrée dans un groupe, c'est parce qu'un garçon me trouvait jolie et que il allait me draguer, quoi. Ça a toujours été comme ça, en fait. Ça a toujours été le petit ami qui me présentait à ses amis, et c'est comme ça que je me faisais des amis. Et dès que je changeais de petit ami, j'avais plus les copains.
D'accord. Donc tu avais perdu les amis avec.
Ben oui, parce que en fait, t'avais pas de. En plus, en France, il faut faire les maternelles avec tes copains. Sinon, tu peux pas tisser des liens. En Italie, il te suffit d'une semaine pour avoir des amis pour la vie. C'est pas pareil, c'est pas la même culture.
T'avais l'impression que le fait de pas avoir grandi ici t'empêchait de tisser des liens forts avec des gens.
Ouais, je pense que si j'avais fait une vie dans une cité, parce que honnêtement, c'était une cité en Italie où j'habite. Si j'avais fait ma vie de cité, bah, j'aurais eu une identité forte et des liens forts et des copains.
Et t'as l'impression de pas avoir une identité forte aujourd'hui ?
J'ai une identité forte, mais mes copains, je les ai perdus parce que je suis partie d'Italie et qu'on s'est perdu de vue, quoi. Donc.
Bah justement, puisque tu me parles de tes petits copains, tu disais par exemple que t'as pu avoir des petits copains racistes, en fait.
Ouais, c'est arrivé, oui. Oui. Il y en a eu un ici en France qui, à un moment, il se vantait. Il disait, oui, bon, déjà, son ex, c'était une Asiatique, etc. Et puis, ah, bah, j'ai eu une Asiatique, j'ai eu un tel. J'ai eu...
En fait, il collectionnait les nationalités.
Enfin, je me suis posé vraiment des questions. Je me suis dit, ah bon, ok, d'accord. C'est bizarre quand même. Hein, parce que quand tu commences à voir qu'il a eu des femmes de plusieurs couleurs, c'est bizarre.
Et comment ça, de plusieurs couleurs?
Qu'est-ce que tu trouvais? De plusieurs couleurs, entre guillemets, hein, de plusieurs origines, quoi. Enfin, c'était pas juste une Française. Et un autre, pour d'autres raisons, qui sont peut-être pas liées à ma couleur de peau, ben, après moi, il a eu que des Italiennes. Il a eu, genre, six relations avec six Italiennes.
Est-ce que là, tu nous parles de fétichisation dont,
c'est
ce que tu veux dire?
Je pense qu'il y a de la fétichisation, clairement.
Ouais, donc c'était pas toi en tant que personne qui était intéressante, c'était pas toi en tant que personne que la personne aimait,
c'était
ta couleur, le fait que tu sois quelqu'un de racisé, quoi.
Quelqu'un d'exotique.
Exotique, oui.
Ouais.
Et comment tu t'es rendu compte de ça, justement, en interne?
Ah ben, dès que t'es un peu mignonne, c'est tout de suite à cause de ça. Hein.
Comment ça, c'est tout de suite à cause de ça?
Ben, je pense qu'ici en France, ça devait pas être le seul. Hein. Peut-être que les autres le verbalisaient pas forcément, mais il y a ce côté un peu exotique. Hein, quand la nana est un peu jolie et tout, dès qu'elle a une couleur différente, ça fait tout de suite exotique. Et donc, peut-être c'est plus de la curiosité que du fait de m'aimer moi en tant que personne comme je suis, quoi. Des fois, je me suis posé la question. Après, j'ai pas trop d'éléments. Je vais pas accuser tous mes ex. C'est pas. Mais des fois, je me suis posé des questions. Ça, c'est sûr. Mais bon, après, j'étais dans ma relation, donc je me suis dit bon, je vais quand même rester quelques temps. Puis après, bon, après, je me suis dit que non, ça pouvait pas continuer. Je l'ai quitté, quoi. Je l'ai quitté. Voilà. Et c'est dommage, hein. Mais bon, après, les relations, c'est comme ça. Ça m'a permis de connaître mon copain actuel, donc ça va.
Qui, lui, t'appelle pas sa déesse noire?
Non. Il m'appelle ma puce, c'est plus banal, mais voilà.
Et avec qui t'as un enfant, d'ailleurs?
J'ai un enfant, ouais, de presque 8 ans maintenant.
Et ça se passe comment, justement, parce que c'est un couple mixte, il est blanc, par rapport au racisme et par rapport au vécu du racisme ici en France, et comment il le perçoit, lui?
Bah lui, il m'écoute, il partage avec moi, ben, mes préoccupations, bien entendu. Mais des fois, quand même, je sens que sa pensée est quand même limitée par sa condition. C'est-à-dire que comme il vit pas dans ma peau, certaines choses pour lui sont pas forcément claires si moi je les verbalise pas. Donc il peut se rendre compte, hein. Mais sa vision, elle reste quand même limitée par sa position, quoi. Mais après, lui, en tant qu'homme, il n'est pas raciste. Il a toujours été très respectueux avec moi. Il n'est pas du tout dans ce délire d'exotisme qui a pu être celui, par exemple, de certains ex-petits copains que j'ai pu avoir. Après, c'est pas le cas de mon copain, ça je le sais.
Alors, comment ça se passe avec ton fils, justement?
Alors, avec mon fils, il s'est passé un truc qui m'a beaucoup surpris, en fait, dans sa représentation de lui-même. Il faut savoir que mon fils, il est pas noir, en fait, il a la peau assez claire. Donc, en gros, si on voit pas que je suis sa maman, on va dire que, bon, il a une peau légèrement imbrée, mais pas vraiment noire. On avait fait un travail sur le corps ensemble pour pour ma page, pour mon blog. Et on avait fait la silhouette du corps et on avait commencé à dessiner les yeux, le nez, la bouche. Et au moment du coloriage, il prend le marron foncé et il se met à colorier. J'ai dit, mais Andrea, mais t'es sûre? Il a fait les yeux bleus. Parce que les yeux bleus, c'est cool quand même. Et après, il s'est fait la peau marron. Et je lui dis, mais à l'époque, je crois qu'il devait avoir 4 ans. Je lui dis, mais T'es sûre? C'est pas ta couleur. Et là, j'ai eu un brin de fierté. Je me suis dit, mon fils, il se voit noir, en fait. Bon, il sait qu'il est pas noir comme moi, maintenant. Mais quand il avait 4 ans, il le savait pas. Quand il avait 4 ans, pour lui, il avait ma couleur de peau, mm-hmm. quoi. Après, lui, à l'école, c'est plus parce qu'il a un côté atypique. Mais le racisme, il l'a pas vraiment vécu.
En quoi il a un côté atypique?
Ah, bah, disons que, il peut avoir une certaine naïveté. Donc, du coup, les enfants, ils peuvent lui raconter des choses, il y croit, il se fait avoir, quoi, il se fait mmh. un peu. Mais c'est un enfant très intelligent aussi. Si au début, à l'entrée scolaire, il pouvait avoir quelques difficultés, se faire un peu maltraiter, maintenant, il a quand même des potes. Mmh. Et il est à l'aise, ça a changé énormément d'une année à l'autre, donc je me fais pas de soucis pour lui, je sais qu'il aura des copains. Par rapport à son identité, j'ai pas de soucis à me faire, je sais que... Même qu'il est sensible, hein. Une fois il m'a dit « Oh, mais maman, à l'école, j'ai l'impression que la maîtresse, elle interroge que les blancs. » Tu vois, ces petites choses, alors que moi, je lui ai jamais parlé de ça. Hein. Mm. C'est lui qui remarque. Il dit « Mais pourquoi elle le fait pas ?» et tout. Il me dit « Mais non... » La maîtresse, bon, je le dis, je sais pas si elle l'est, mais mon fils, il m'a dit, la maîtresse, elle est raciste, elle interroge que les blancs. Il m'a dit, cache comme ça. Je ne sais pas, je peux pas me prononcer là-dessus, je saurais pas, mais c'est vrai que on sent qu'il y a une distance, hein, même quand je vais à l'entretien. De toute façon, moi, par défense personnelle, je vais jamais à un entretien avec la maîtresse sans mon copain. J'y vais toujours en couple. C'est rare. C'est vraiment parce qu'il ne peut pas.
Et pourquoi?
Mais sinon, parce qu'il est blanc et que je suis noire et qu'en face de moi, je ne sais pas qui j'ai. Mm. Et que le jugement est très rapide, surtout chez les Français, parce que, comme je te disais, c'est sournois, en fait. Ils sont très gentils, mais derrière, il y a du racisme, quoi. Mm. Et du coup, je suis là en mode...
Tu sais pas trop sur quel pied danser, quoi.
Exactement. Et dès que ton enfant a des soucis à s'intégrer, ça a été le cas en maternelle, parce que les maîtresses étaient vachement fermes et tout. Mm-hmm. Et mon fils, il lui fallait plus de temps. Il était très distrait. Il a la voix qui porte. Il était pas capable de rester en place. Mm. Et donc, ça énervait beaucoup, parce que là, c'est le moment de la discipline, c'est un entrée en maternelle, elles sont vachement au taquet par rapport à ce genre de choses. Et du coup, dès que tu es racisée, ils te mettent dans une case. Hein. Mm. Et y aller, moi, toute seule, j'avais pas assez de caution, alors que mon conjoint à côté, en silence, oui, il avait pas besoin de parler, hein. Juste le fait qu'il soit là... Et même la psychologue, parce que on m'a envoyée chez une psychologue avec mon fils quand il avait 3 ans et demi, parce que il avait des fortes bégayements et qu'en fait, il était en mode trouble positionnel à l'école, hein, parce que en fait, il se sentait très oppressé. Il a mis énormément de temps à s'adapter aux règles, énormément de temps. Maintenant, il sait le faire. Mais à l'époque, c'était très difficile. Mais c'était pas de la mauvaise volonté. C'est vraiment le fonctionnement atypique de mon fils qui était comme ça, hein, qui était. Il a pas de case. Hein, il est pas dans une case plutôt qu'une autre, parce qu'il a pas eu de diagnostic particulier. Mais c'était difficile, quoi. Donc, on va chez cette psy. J'ai dépensé une fortune, mais en plus quand elle m'a fait le compte rendu, moi j'étais une mauvaise mère qui était en train de abîmer son enfant parce que je le punissais pas.
D'accord.
Hein, moi, j'ai dit, moi, je vais pas le punir. C'est pas parce que j'estimais qu'il était pas responsable. Parce que si mon fils fait une bêtise, moi, je veux bien le punir. Après, je le punis pas en le mettant dans un coin. Je lui dis, OK, tu joues pas à ta Switch. Au pire du pire, tu vois. C'est une punition gentille, quoi. Une fois sur deux, je fais même pas ce que je dis. Enfin, c'est juste pour lui donner un petit renforcement, ça s'appelle.
D'accord. Le Pavlov avec le stimuli et le renforcement, là.
Voilà, oui, en psychologie, parce que voilà, c'est ma formation qui parle, là. Et donc, un petit renforcement suffit. Il n'y a pas besoin de punir l'enfant, de l'humilier dans la classe devant tout le monde, etc. Et donc, cette psychologue hyper dans le jugement et tout. Et je me rappelle, ça m'avait traumatisée. Et et une camarade qui, elle, était maman d'enfants autistes. Mmh. Et le fait que le mari soit présent est très utile. Et cette femme m'a aidée en me disant ça, parce que je me suis dit, maintenant, le mari, je vais le mettre partout.
Ah, donc c'est une des mamans qui t'a dit que ton mari devait être là.
Les mamans d'enfants autistes, elles ont des problèmes parce que elles vivent des discriminations. Hein. Mm-hmm. Lorsque l'enfant il a un handicap, il est discriminé en France. Mm-hmm. Donc c'est un peu la même chose que pour le racisme ou pour l'homophobie, etc. Hein. Elle m'a dit la caution du père est hyper importante. Si le père il est blanc, c'est encore mieux dans mon cas. Tu vois ce que je veux dire? Et lorsque tu vas chez...
Pourquoi c'est encore mieux?
Ben, parce que là, pour le coup, s'il y a le problème du racisme, ben, ils se disent, ben, le papa, il est blanc, donc, elle va pas maltraiter son enfant. Tu fais tout ce qu'il faut, mais la personne à face, elle va te juger, elle va te mettre dans une case. Moi, ils savent pas que chez moi, j'ai 150, enfin, mon fils, sa bibliothèque, il y a au moins 150 livres.
Tu penses que les personnes qui sont en face de toi te respectent mieux parce que ton mari est blanc, parce que ton compagnon est blanc, et seront moins racistes et alors, penseraient que ton compagnon est une caution, c'est ça?
Bah, je ne sais pas, mais dans le doute.
D'accord.
Tu vois ce que je veux dire? Oh, ouais. Parce qu'en fait, comme c'est pas verbalisé, moi j'ai remarqué que ça se passe mieux. Mm. Parce que quand j'y allais toute seule, ce que je disais en fait, et souvent ça m'arrive ça.
T'as l'impression qu'on te traite pas pareil quand ton mari, enfin quand ton
compagnon. Ouais, quand il est là, je me sens différente, comme si on allait mieux me respecter d'emblée, quoi. Mm. Enfin, j'ai peur si j'ai un problème bureaucratique, s'il faut parler à quelqu'un, etc. J'ai besoin qu'il soit avec moi. Je veux pas y aller toute seule. C'est parce que j'ai vu que la qualité de l'entretien change complètement. Enfin, moi, la bibliothèque de mon fils, je le répète, il y a au moins 150 bouquins. Je déconne pas parce que je suis passionnée de littérature jeunesse, donc on lit énormément de livres. J'adore ça et tout. Mais mon fils joue aux jeux vidéo, il est gamer comme son père, hein. Et il peut passer beaucoup de temps sur ses jeux vidéo, etc.
Et on pense régule, que c'est toi qui le...
On régule et tout. Mais si je devais dire, sans que le papa soit présent, oui, mon fils joue aux jeux vidéo à la maîtresse, toute seule dans un entretien.
C'est toi en fait. C'est que tu t'occupes pas de ton fils et c'est ça dont t'as
moi,
peur.
Moi, c'est ce que je ressens, c'est ce que je vis, c'est ce que j'ai vécu. Il y a eu une maîtresse en maternelle. Mon fils, il s'est défendu avec un enfant. Il lui a donné des tapes sur le ventre avec ses poings. Mm-hmm. Elle a raconté à la maman que mon fils avait roué de coups l'enfant. Bon, s'il l'avait roué de coups, il aurait eu des ecchymoses. Mmh. Or, il lui a juste donné des tapes. Et la maman, elle a eu tellement peur qu'elle a déscolarisé son enfant. Elle est partie dans une autre école. Mmh. Alors qu'ils étaient amis. Elle a plus répondu au téléphone et tout.
D'accord. Enfin, donc en fait, les mots ont une importance.
J'étais choquée parce qu'elle, ce que mon fils faisait pour elle, c'était gravissime. Une fois, il avait regardé les Totally Spies chez Mamie Papi. Et en classe, pendant la lecture d'un livre, je te dis, il était en deuxième année de maternelle. Il a dit, je suis un gourou et vous êtes tous mes sujets. Elle m'a convoquée, choquée, en croyant je ne sais pas quoi que... Alors, sur le coup, moi, j'étais préoccupée. Donc, je dis, vous inquiétez pas, on est athée. Je sors de l'entretien, j'éclate de rire. Je me rends compte, une fois que la pression est descendue, parce que j'y suis allée toute seule, et j'étais angoissée parce que j'avais pas mon copain avec moi. Je sors, j'éclate de rire. Je dis, mais elle est folle hein. Et là, je m'interroge vraiment. Je me dis que c'est forcément... Parce que c'est pas possible. Elle était...
Il a
fait la scène du film, oui, quoi. Voilà, il était ça. Sérieux et tout, en plus.
Et elle t'a dit quoi, en fait? Elle t'a dit quoi?
Bah, elle était inquiète. Elle pensait qu'on
était... Elle s'inquiétait sur quoi?
Genre qu'on était dans une secte ou... Je sais pas. Ou qu'on était dans un truc genre... Tu sais, elle savait pas que je suis pas musulmane, en plus. Ouais. Donc, tu vois, elle a dû danser. Elle s'est fait un film, quoi.
Tu vois, et je trouve ça quand même assez incroyable, en fait, hein, de se dire que, en réalité, il y a jamais rien de... on nous prête tellement de choses, on va dire, mais des choses négatives à chaque fois, qu'en fait, on n'est jamais serein. un enfant qui regarde un dessin animé, qui répète des phrases d'un dessin animé, enfin, il y a rien de grave, mais forcément, en tant que parent racisé, comme on disait avec Ulrich dans nos épisodes, c'est qu'il y a toujours cette suspicion de maltraitance de notre part, cette suspicion de mauvais parents qu'on serait, cette suspicion qu'on serait incapable d'élever nos enfants, et cette suspicion qu'il y aurait toujours quelque chose de mal et de négatif derrière nous, en fait.
Et puis ça les fait chier, hein, parce que mon enfant, là, maintenant, ça y est déjà, c'est pas une racaille, comme on m'avait prédit.
Hein? Ah, on t'a prédit que son enfant serait
et
une racaille.
Et en plus, il a que des A partout. La maîtresse est bien embêtée parce que mon fils, il est parmi les meilleurs de la classe. Et quand même, oui, mais allez quand même voir un psychologue parce que machin...
Parce qu'il a un problème quand même.
Non, mais pourquoi je dois aller voir un psychologue? Il a des copains, il a des A partout. Mais il a un profil atypique, mais on s'en fiche de profil atypique. Oui, il est un peu naïf, etc. Mais il va bien, il réussit bien. Quel est le problème? Mais quel est le problème? Pourquoi elle me dit... En fait, quand je lui demande mais pourquoi il faudrait aller voir un psychologue, elle arrive pas à verbaliser, en fait. Hein? Mais je... Honnêtement, je comprends pas. Et quand mon fils me dit « Maman, la maîtresse est raciste !» Et je me dis, oulala, je sais pas si elle l'est, peut-être, vous savez, je pense que en fait, la plupart des gens se rendent pas compte, c'est quelque chose d'inconscient. C'est un peu comme le syndrome méditerranéen du médecin.
Ah, oui.
Et du coup, voilà quoi, ils se rendent pas compte, c'est pas méchant en fait, ces gens sont pas, c'est pas dans le but de nuire à quelqu'un, en fait, au fond, mais... En fait, au fond, elle voudrait que elle se préoccupe des enfants et tout.
Alors,
mais c'est clair que il y a deux poids et deux mesures.
Enfin, c'est pas méchant, c'est pas dans le but de nuire, mais c'est dans quel but en fait le fait de enfin, est-ce que ça nuit à un enfant quand il perd
non,
son copain?
C'est que
quand parce que
c'est
en fait,
dans,
il est pris...
c'est dans le but de te tenir au calme parce que ça ils ont quand même peur. Tu vois ce que je vais dire? C'est la différence qui fait peur. Et quand tu peux pas appréhender quelque chose de différent, ça te fait peur. Et donc, du coup, en fait, tu te caches un petit peu derrière les stéréotypes. Et ces gens-là, en fait, c'est une limite qu'elles peuvent avoir. Et c'est pas de la méchanceté. Je pense que c'est plutôt eux, enfin, ça devient de la méchanceté, parce que quand ils te nuisent, bah, pour le coup, c'est pas quelque chose de... Enfin, je sais pas. Je pense que j'ai pas, comment dire. Je suis quelqu'un de très empathique. Et c'est sûr que mon empathie, elle est contre-productive parfois. Et je pense que je dois travailler sur ça aussi. Quand je vois ta réaction, là, pour le coup, ça, tu vois, ça me fait réfléchir. Parce que quand tu vis ta vie à côté de gens très racistes pendant très longtemps, c'est très difficile après d'avoir le juste recul. Parce que tu vois, le réflexe que j'ai là, quand j'étais parlé là, je suis même pas sûre de moi là. Du coup, quand toi, tu deviens une balise quelque part. Parce que c'est pas, quand t'es dedans avec tes deux pieds, c'est difficile. Moi, je suis pas au point non plus avec tout ça. Parce que ce travail-là, c'est un travail de tous les jours. Et le fait de ne pas être à côté de quelqu'un d'autre qui fait les mêmes réflexions, tu es très isolé et c'est difficile après d'avoir le juste recul, la juste réflexion aussi. Donc, il se peut que je me trompe quand je dis ça aussi. Donc ça, je préfère rester prudente.
Non, mais après, c'est pas une question de tromper ou pas. Je pense qu'on a le droit d'avoir nos réflexions. Après, on avance tous, on est tous en questionnement aujourd'hui, je pense, dans cette société. On met, on va dire, le doigt sur des choses graves qu'on a pu vivre, qu'on peut vivre encore tous les jours et que nos enfants peuvent vivre aussi. Donc oui, là où je suis pas d'accord avec toi, mais ça veut pas dire que je te dis que tu as tort, ça veut juste dire que que pour moi, le racisme est un réel système, hein, et que les personnes sont des acteurs de ce système, et ils permettent de faire en sorte que ce système puisse fonctionner. C'est un système de domination, et cette domination, elle permet, comme tu disais aussi tout à l'heure, de garder des personnes à leur place, d'assigner des gens à des places. C'est un système de domination qui peut être très violent à partir du moment où les gens n'acceptent pas de rester à cette place qui est censée être la leur. Il y a violence derrière quand on n'accepte pas. Voilà.
Non, mais tu as raison. Et d'ailleurs, ça me fait me dire que mon fils a le bon réflexe, parce que t'as vu, je lui ai rien dit et pourtant il le voit. Donc quelque part, bon, j'ai fait mon travail de transmission inconscient, c'est-à-dire je l'ai mis en confiance suffisamment pour qu'il puisse voir les choses de lui-même. Maintenant, il ne faut pas que j'étouffe cette flamme-là, il faut que je la porte. Et tu vois, ce réflexe de se dire « Non, mais elle est gentille, machin. » Voilà, pour le coup, tu vois, ça va être un vrai travail aussi de vivre avec ça, de me dire à moi-même « Ok, il faut que je sois ok avec ça, parce que j'ai vécu dedans pendant des années et c'est pas évident. Donc, oui, je peux me tromper, je peux faire des erreurs. Et c'est pour ça que ton podcast me plaît. C'est pour ça que j'ai voulu parler avec toi, rentrer en contact avec toi, parce que je sentais vraiment que c'était salvateur, qu'il y avait quelque chose qui me faisait du bien là-dedans. Tu vois. Donc, c'est pas une question d'avoir tort ou raison.
Non, bien sûr.
Mais j'ai un warning qui s'est allumé quand j'ai vu ta tête. Je me suis dit, non, attends, c'est pas normal. Tu vois, parce que j'ai eu le même warning hier au téléphone avec ma sœur, parce qu'elle faisait pareil que moi maintenant, tu vois. C'est un truc de défense. On se dit non, 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 non. Et au final, on le fait parce qu'on n'a pas envie que l'autre, il se fâche, quoi, tu vois. Ouais, parce que t'es constamment dans le doute, tu te demandes, mais est-ce que c'est moi? Est-ce que j'ai fait quelque chose qui va pas? Et tu t'écrases, tu t'aplatis, et des fois, en fait, quand tu te regardes au miroir, tu t'aimes pas, parce que tu te dis, mais pourquoi je me suis aplatie comme ça? Mais des fois, il faut s'aplatir, parce que si tu le fais pas, ben, tu n'as pas le privilège que tu cherches. Et quelque part, pour avancer au jour le jour, regarde, moi, j'ai deux maîtrises, et je suis femme de chambre. Parce que je n'avais pas autour de moi un entourage. Clairement, si j'avais vécu en France, ça aurait été différent, parce que j'aurais eu une communauté tout entière, tout autour de moi. Mais là, j'étais toute seule, quelque part. C'est pas pareil.
Je voulais te remercier pour tout ce que tu nous as partagé aujourd'hui. J'ai trouvé ça vraiment très intéressant et en même temps très fort émotionnellement. Je pense que dans tout ce que tu as dit aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui se retrouvent chez beaucoup de personnes. Et c'est important aussi d'entendre les doutes qu'on peut avoir, les questionnements qu'on peut avoir. Et ça, c'est quelque chose qui revient chez chaque personne que nous avons rencontrée aujourd'hui. Cette remise en question perpétuelle de la parole, du ressenti, du vécu, est un réel poids et peut être une torture psychologique aussi pour les personnes. À bientôt, Christina.
À bientôt.
Merci.
Au revoir.
Vous venez d'écouter Les enfants du bruit et de l'odeur. Si le podcast vous a plu, alors soutenez-le. Partagez autour de vous. Suivez-nous sur Instagram. Vous pouvez même envoyer vos questions ou vos réflexions. Et surtout, mettez-nous une pluie d'étoiles et de beaux commentaires sur vos applications de podcast.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.